France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets de campagne sont dans le département de la Loire et aujourd'hui je vous parle du Treuil. C'est une ancienne ferme reconvertie en un espace de soutien à l'agriculture paysanne, un lieu qui milite surtout pour une alimentation de qualité et protectrice de la planète. Mais d'abord, les carnets, bien évidemment, célèbrent la Journée internationale des droits des femmes. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Nous passons le 8 mars sur une piste de danse. La parole est à une association féministe de Saint-Étienne qui milite pour l'égalité femmes-hommes dans le milieu musical et festif. Elle s'appelle Giddy Up, en avant en anglais. Val Giranton, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes DJ, présidente et fondatrice de l'association Giddy Up. On dit bien DJ et pas DJette ?
Oui, tout à fait. Les femmes DJ se battent contre cette terminologie de DJette, puisque déjà, DJ, c'est un terme anglais, donc nous n'avons pas à le féminiser. Et puis d'autre part, le « être » dans la langue française est minorisant.
Comme une maisonnette, voilà.
Voilà, exactement. Donc on n'aime pas trop ça, le terme DJ.
Est-ce que c'est depuis votre poste de DJ, en observant les pistes de danse, que vous avez eu envie de vous lancer dans ce combat militant ?
Alors tout à fait, ce métier s'exerce pour fédérer des gens sur un dance floor, dans un environnement bienveillant où chacun puisse s'exprimer et se rencontrer en toute liberté pour tout le monde en fait. Et moi, derrière mes platines, j'ai vu des comportements qui ne me convenaient pas, et en tout cas qui ne convenaient pas à ma philosophie de ce métier artistique.
On parle donc, pour le dire clairement, de violences sexistes et sexuelles.
Tout à fait des comportements dits inappropriés, interdits par la loi, qui créent des traumatismes chez les victimes.
Votre association propose notamment de la sensibilisation pour les professionnels, que ce soit les bars, les salles de concert, les boîtes de nuit, les festivals. Qu'est-ce qui est, selon vous, le premier réflexe à avoir pour lutter contre ces violences sexistes et sexuelles ?
C'est déjà de conscientiser toutes ces équipes à cette problématique-là, c'est-à-dire que chaque acteur et chaque actrice de l'environnement festif doit avoir des yeux vigilants et prendre conscience de ce qui peut se passer au cours de son événement ou dans son lieu. Donc ça déjà, c'est une grosse brique à l'édifice. Cette sensibilisation, elle passe forcément par des formations, mais aussi par rencontrer des professionnels qui expliquent comment ça se passe et pourquoi ça se passe, d'où viennent ces violences sexistes, comment elles s'alimentent les unes les autres et comment on fait pour les prévenir du mieux possible et les prendre en charge en cas de problématique.
Qu'est-ce que vous pensez, Val Giranton, du plan qui s'appelle Angela ? Peut-être faut-il rappeler au passage de quoi il s'agit ?
Alors Angela, c'est un dispositif d'alerte qui a été mis en place en Angleterre au tout début pour lutter contre le harcèlement de rue et qui se déploie un petit peu partout maintenant sur le territoire. En tout cas, nous, on s'attelle sur la Loire à déployer ce dispositif. Ce dispositif consiste en un mot de passe. Tout le monde n'a pas la même faculté de réaction face à un harcèlement ou à un comportement sexiste ou à une violence plus grave, dite plus grave. Et on peut s'adresser à quelqu'un du staff en demandant « Angela », ce qui signifie qu'on est en situation compliquée et qu'on n'arrive pas à se sortir toute seule de cette, ou tout seul de cette situation. Et
voilà, ça permet d'alerter la personne derrière le bar, par exemple, sans avoir à le signaler à la personne qui nous agresse, c'est bien ça ?
Voilà, tout à fait. La condition sine qua non pour que ce dispositif fonctionne, c'est qu'il doit être communiqué et les personnes, les bénévoles par exemple, derrière bas ou les salariés, doivent avoir été formés à réceptionner ce message-là et savoir comment agir en cas de signalement et d'alerte.
Alors comment agir justement ?
Eh bien, pas de confrontation. La première chose, c'est de savoir qui va gérer l'auteur, l'agresseur, et qui va gérer la victime. Pour moi, c'est deux rôles qui sont bien à différencier. Gérer la victime avec Angela, c'est déjà la mettre en sécurité. Écouter ce qu'elle a à dire sans forcer la parole. cette première réception de la parole, elle détermine tout le destin du traumatisme. Et c'est pour ça qu'il est très important et fondamental d'être dans la bienveillance et dans la croyance de la parole donnée.
Surtout ne pas confronter avec l'agresseur présumé.
Confronter avec l'agresseur présumé peut rajouter de la violence sur la victime et puis peut rajouter de la violence globalement à une situation qui est déjà tendue. En environnement festif, on privilégie la sécurité de la victime.
Qu'est-ce qui surprend le plus ou qui interpelle le plus dans les formations que vous proposez, Val Géranton ?
Je crois que c'est nous débutons toujours nos sensibilisations et nos actions de formation par quelles sont les réalités de terrain et quels sont les chiffres. Et je crois que réaliser et concrétiser la hauteur et la réalité des violences sexistes et sexuelles, c'est toujours un moment assez dur pour les personnes qui suivent nos formations.
Un exemple ?
Un exemple de chiffre, 60% des femmes déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Et une femme sur deux se disent en insécurité, seule, en environnement festif. Ce qui sont des chiffres quand même assez alarmants.
Alors ce soir, à l'occasion de la journée des droits des femmes, votre association Giddy Up organise un événement. C'est une table ronde ouverte au public avec la projection d'un documentaire qui porte un titre savoureux. Il s'appelle « La cantatrice chaume », documentaire sur la place des femmes dans le milieu de la musique.
Oui, tout à fait. Alors, « La cantatrice chaume » tente à chercher de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles l'égalité sur les scènes des musiques actuelles et des musiques amplifiées n'est pas atteinte, et loin de là. Donc, en interrogeant des artistes et puis également des techniciennes, hein, parce que nous avons les femmes sur scène et nous avons aussi les femmes derrière la scène. Donc ce documentaire tente à montrer quels sont les freins et quels pourraient être les leviers pour aller de manière plus ample vers l'égalité.
Bon, il y a encore du boulot, hein, vous êtes là pour ça.
Il y a encore du boulot, oui, tout à fait. Mais voilà, on se mobilise. Saint-Étienne est une ville d'acteurs associatifs et militants qui se serrent les coudes. Et c'est les raisons pour lesquelles, notamment avec le Clapier, hein, cette salle stéphanoise, on arrive à établir des collaborations qui vont dans ce sens.
Association Giddy Up, c'est donc à Saint-Étienne. Merci beaucoup, Val Géranton.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Voilà un endroit qui s'est donné pour ambition de rapprocher les paysans et les consommateurs. L'enjeu est important, il est aussi d'actualité. Le Treuil est un tiers-lieu installé dans une ancienne ferme à Chambœuf, à une vingtaine de kilomètres au nord de Saint-Étienne. Bonjour Jean-Pierre Mousset.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes l'un des porteurs de ce projet, membre de l'association Les Amis du Treuil. Que se passe-t-il concrètement dans cet endroit, le Treuil ?
D'abord, c'est une vraie, ça grenouille, ça grouille beaucoup de vie. C'est vraiment l'ADN de l'association, c'est qu'il y a une vraie dynamique qui réunit énormément de gens et d'associations. On réunit 35 associations et plus de 180 personnes adhérentes, des gens qui viennent faire des chantiers, on en reparlera peut-être, mais aussi des gens qui viennent participer à des formations, à des ciné-débats, à des réunions plutôt ludiques, enfin, des actions qui ont pour but de sensibiliser non seulement les habitants, mais aussi les partenaires, les décideurs institutionnels, justement à la situation de l'agriculture et puis aussi tout ce qui touche à l'alimentation et à l'environnement.
C'est un projet citoyen, hein, qui est porté par un collectif. Quel est le profil de celles et ceux qui ont créé ce tiers-lieu ?
Alors vraiment, c'est parti d'une initiative paysanne, c'est-à-dire que nous avons été contactés en 2017 par des organisations paysannes de la Loire qui nous ont dit « on a l'opportunité de peut-être de racheter, si vous en êtes d'accord, une ancienne ferme, ce qu'on appelle un corps de ferme, pour en faire un lieu emblématique d'abord de l'agriculture paysanne ». Et ils ont donc invité des dizaines et des dizaines d'associations, petites, locales, départementales ou régionales d'ailleurs, à venir à une réunion d'information et nous sommes retrouvés à pas loin de 100 personnes qui ont trouvé l'idée très très intéressante. Et de là est né le projet des Amis du Treuil. Vraiment, le projet de base, c'est de soutenir une agriculture locale, une agriculture résiliente qui produit de la nourriture pour les habitants de notre territoire, c'est-à-dire à proximité des villes. C'est aussi de sensibiliser les gens à l'importance du bien manger pour la santé, mais aussi du bien manger pour le plaisir, pour la qualité et pour pouvoir aussi faire vivre finalement les paysans qui sont en proximité. Et pour nous, évidemment, les deux, l'agriculture, le modèle agricole qu'on souhaite voir se développer et une alimentation responsable, ça soutient la qualité, la biodiversité et le respect de l'environnement.
Je vois qu'il y a des vergers pédagogiques, notamment, dans vos activités.
Oui, c'est ça. Donc, une de nos associations membres, l'association Graines, a souhaité créer un verger pédagogique. Alors, pédagogique, ça veut dire deux choses en même temps. Pour les enfants, donc il y a un certain nombre de classes, d'écoles, mais aussi d'adultes qui viennent simplement se renseigner, mais aussi pédagogique dans un autre sens, c'est-à-dire qu'il faut se préparer au dérèglement climatique qui est bien entamé. Ça veut dire que le choix des arbres, les plantations d'arbres vont progressivement muter. Et ce verger, donc, il est aussi un lieu d'expérimentation de nouvelles méthodes de plantation, de choix de variétés qui vont permettre d'être plus résistantes. Et donc, on a mis à disposition à peu près 1500 mètres carrés de terrain pour permettre à ce projet de verger de se créer. Il est donc opérationnel depuis maintenant 2 ans et il voit de plus en plus de gens y passer.
Alors, vous parliez de chantier tout à l'heure. La rénovation de la ferme n'est pas encore terminée et tout le monde met la main à la pâte, hein, c'est ça ?
Alors là, c'est assez impressionnant puisque dès 2019, nous avons commencé les travaux. Il fallait très, très vite pouvoir avoir des bureaux, des lieux de formation. Et ça a attiré énormément de gens. Actuellement, on a pratiquement la moitié de gens qui viennent du milieu paysan, des paysans plutôt à la retraite, bien sûr. Et maintenant, pratiquement la moitié aussi qui viennent d'autres horizons que le milieu agricole. Et tout ce beau monde, on a 40 à 50 personnes, l'air de rien, donc qui participent à ces chantiers. Et tous les mardis, donc nous retrouvons entre 10, 15, 20 personnes qui tous les mardis viennent par roulement faire des chantiers extrêmement importants. Donc c'est vraiment toute la journée, ils sont là toute la journée, ils ont fait des travaux remarquables, c'est pas simplement faire un petit peu de peinture, c'est transformer une ancienne porcherie en salle de formation avec l'isolation, l'informatique, le chauffage et ainsi de suite. Donc vraiment ce sont des travaux de très grande ampleur. C'est très très chouette de voir ça parce que tous les mardis ça grouille de vie là encore avec une très très bonne ambiance et des personnes qui envie de faire de ce centre un lieu vraiment chouette au point de vue des conditions d'accueil.
Et tout ça repose sur l'énergie des bénévoles, hein ?
Complètement, oui. Il y a beaucoup de bénévoles dans les chantiers, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles dans les autres actions. On ne fait pas que des chantiers. On travaille sur l'emploi agricole, sur l'arboriculture fruitière. On vise aussi à protéger des terres naturelles et agricoles, parce que quand il y a des villes, il y a une volonté souvent de construire, de minéraliser. Et depuis l'année dernière, on a un très, très, très gros chantier, très, très ambitieux, sur le partage apaisé de l'eau, qui vise à instaurer un dialogue autour du partage de l'eau, puisqu'il faut se préparer aussi à une raréfaction de l'eau. Et là, pour tous ces projets, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent de nos associations adhérentes, et puis aussi des particuliers qui trouvent intéressant de pouvoir participer à l'avancée de ces projets. Par exemple, on a un bar associatif et culturel qui est porté par des bénévoles.
Et vous, Jean-Pierre, c'est votre métier ou alors qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Alors, mon métier maintenant, c'est retraité. Donc, mais avant, j'étais dans le mouvement associatif, fédératif d'ailleurs, dans l'éducation populaire. Mais je suis rentré dans ce projet par ce qu'on appelle les AMAP, donc les associations qui mettent en relation des fermes, des paysans et des consommateurs. Mais d'autres sont rentrés par les semences paysannes, d'autres par Terre de Liens, d'autres par des tas d'associations qui nous ont rejoints, Vie associative et AMAP.
Voilà, ça grouille, ça grenouille.
Ça vit beaucoup, ça vit très très fort, c'est une belle dynamique humaine en tout cas, donc on souhaite vraiment que le projet continue, et voilà, s'il est possible d'inviter les auditeurs à peut-être nous apporter leur soutien, nous avons un site internet qui s'appelle letreuil.fr tout simplement, peut-être pour apporter leur soutien à ce que l'on vit ici.
Les Amis du Treuil, c'est donc à Chambœuf dans la Loire. Merci beaucoup Jean-Pierre Mousset.
Merci beaucoup, Dorothée.
Bonne journée, au revoir. Un grand merci à Sophie Hoffmann et à Alexandre Chenet.